Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в имя du Père, du Fils и du Saint-Esprit, mes très chers Pères concélébrants, révérend Père, et vous les représentants des autorités civiles de la ville et de la région, et vous tous, mes chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, quand j'étais encore un enfant, j'étais étonné dans l'Église, chaque fois qu'on a lu l'Évangile, des paraboles, des histoires, et on n'a jamais donné, ou presque jamais donné, un nom. L'Évangile parle d'un homme très riche, une veuve, un fils cadet, comme aujourd'hui, une femme malade. Mais il n'y a pas de nom. Plus tard, j'ai compris pourquoi. C'est parce que l'Évangile parle de la relation entre Dieu, notre Créateur, et chacun de nous. L'Évangile, c'est l'histoire de ma relation personnelle avec Dieu. Et c'est pourquoi je dois me reconnaître dans toutes ces personnes dont parle l'Évangile. Aussi, aujourd'hui, je dois me reconnaître ou bien dans cette femme malade ou dans le serviteur du synagogue qui a contesté l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a guéri cette femme le jour du sabbat. Et comme nous savons tous, dans l'histoire biblique, le sabbat est le jour du repos et l'institution de ce jour comme jour du repos a été faite par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi ce que notre Seigneur Jésus a fait était vraiment un scandale pour tous les fidèles de son temps, du synagogue, parce qu'en faisant cela, il se présentait, il s'est manifesté pas uniquement comme un fidèle, mais comme quelqu'un qui a reçu le pouvoir d'interpréter la loi de Dieu. L'action du Christ était la réalisation, le signe plutôt de son autorité, du fait qu'il était vraiment et qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre l'opposition, la réaction des scribes et des prêtres du temple. Car il est le maître de la loi, et c'est lui qui peut donc interpréter la loi. Et c'est lui aussi qui nous a libérés de cette loi de l'Ancien Testament. Car comme l'apôtre répète si souvent, nous devons obéir à la loi. Mais c'est impossible pour nous. Et c'est pourquoi à la fin de l'histoire, nous sommes tous condamnés par cette loi. Et c'est pourquoi aussi que le Christ a été le seul sans péché qui a pu obéir à la loi, et qui a donc rempli tous les commandements de son Père céleste. Comme Fils unique de Dieu, il nous a donné la liberté, la guérison spirituelle, dont la guérison physique était un signe, car le Seigneur n'est pas venu sur terre pour guérir quelques malades, mais pour nous tous, pour donner à nous tous cette guérison spirituelle, le salut éternel. Et dans ce sens, nous pouvons dire que nous sommes libérés de cette loi de l'Ancien Testament. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes vraiment dans notre vie quotidienne, dans notre vie ecclésiale, est-ce que nous sommes vraiment libres? Et qu'est-ce que cela veut dire, être libre dans le Nouveau Testament? Être chrétien? Cela veut dire que notre relation avec le Seigneur Dieu, en Christ et par l'Esprit Saint, c'est une question d'amour. Nous devons aimer le Christ. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Et ça, c'est un mouvement nécessaire pour vivre cette liberté. Si on parle de la liberté dans l'Église, on parle en même temps de l'amour dans l'Église. Et inspiré par l'amour de Dieu et pour notre prochain, nous pouvons venir ici chaque dimanche pour commémorer, pour célébrer, pour participer à l'œuvre du salut que le Seigneur a accompli pour nous tous. C'est pourquoi, en vérité, l'Église, c'est le lieu, l'espace de la liberté. Et comme vous savez, nous sommes venus moi-même et M. Sologoub pour passer avec vous, pour célébrer avec vous ce week-end de la Sainte Liturgie et hier soir déjà l'office de la Vigile. Et lui, il est venu pour donner une conférence. Il a parlé du fondateur de notre diocèse, Métropolite Eulogie. Un évêque, un archevêque, un serviteur de Dieu remarquable qui a exactement compris l'importance de la liberté pour la vie chrétienne, pour la vie spirituelle. Et comme l'apôtre dit aujourd'hui, il n'a pas fait la guerre contre les autorités de ce monde, mais contre les démons, contre l'idée qu'il faut être obéissant à une loi, n'importe laquelle. Il a pratiqué dans sa vie, comme évêque, archevêque et métropolite, cette liberté en Christ. Et à la fin de sa vie, quand il a écrit ses mémoires, il a dit exactement que ça a été cette liberté qu'il a inspirée toute sa vie, en tout cas, depuis son arrivée en exil, ici en France, en Europe occidentale. Nous devons commémorer sa mémoire, comme nous commémorons aujourd'hui aussi la mémoire d'un prototype d'un bon évêque, Saint-Nicolas, qui est le patron de votre cathédrale, de cette très belle église. Mais ce qui est très important, mes frères et sœurs, c'est que nous gardions dans notre cœur cet esprit de vérité. Dieu lui-même, par l'incarnation de son Fils, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a libérés. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Et ça, c'est la raison unique et valable pour participer aux offices de l'Église. Et je voudrais, comme votre archevêque aujourd'hui, faire un appel à vous tous de prendre au sérieux cet aspect de la vie ecclésiale. On peut parler en français de la vie ecclésiastique ou de la vie ecclésiale. La vie ecclésiale, c'est la vie de la communauté qui célèbre les événements du salut, comme nous aujourd'hui. Mener une vie ecclésiale veut dire se confesser, recevoir la Sainte Communion, lire l'Évangile, devenir un saint. Parce que ça, c'est notre vocation. C'est pourquoi le Seigneur l'a dit explicitement, il faut devenir des saints. Et pour devenir des saints, il faut travailler, il faut obéir à l'Église, au Seigneur lui-même. Il faut vivre avec l'Église et dans l'Église, parce que c'est ici que le Seigneur nous donne à nous aussi cette guérison spirituelle nécessaire pour le salut éternel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde vous tous jusqu'à la fin des temps, parce que quelqu'un qui aime ne mourit jamais. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, représentants de nos frères catholiques, protestants, des autorités civiles et de nos frères orthodoxes, mon Père, encore une fois, une grande joie pour moi d'être avec vous pour l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, le thaumaturge. Merci pour votre accueil, merci pour vos saintes prières. Merci aussi pour votre fidélité à la foi orthodoxe. Car nous vivons ici en France, malgré la beauté de nos églises, comme une minorité. Les orthodoxes en France sont encore une minorité. Alors, ça pose des problèmes. La société autour de nous est plutôt une société laïque. Et s'il y aura une influence spirituelle, ce n'est pas du tout une influence orthodoxe. Cela veut dire que nous devons, plus que jamais, nous réunir dans nos églises pour prier ensemble. Parce que dans un pays orthodoxe, soit la Grèce, la Roumanie, la Russie, l'Ukraine, on peut dire il y a beaucoup de signes de la présence orthodoxe, il y a beaucoup d'églises, des monastères, vous avez des croix à côté des chemins, il y a des icônes dans chaque maison. Bref, l'atmosphère d'un tel pays est l'atmosphère orthodoxe. C'est la religion du peuple, si vous voulez. Mais ici, en France, ce n'est pas du tout le cas. Donc, plus que jamais, nous avons besoin de nous réunir dans nos églises pour célébrer ensemble à une façon créative. Il faut bien comprendre créative. C'est par nos offices que nous devons transmettre le contenu de la foi et la beauté de la foi aux enfants et aux gens qui viennent de la rue, par curiosité, mais qui peuvent rencontrer ici le Christ. Parce que pour trouver le Christ, il faut monter sur un escalier qui a trois marches. Il faut premièrement quitter la rue, ce que nous avons fait ce matin. Nous avons quitté la rue pour entrer dans le sanctuaire de l'Église. Mais cela ne suffit pas. Vous n'êtes pas en avant. Nous ne sommes pas des croyants en faisant cela. Parce que j'en suis sûr, ici à Nice surtout, il y a beaucoup de gens qui font cela par curiosité, des touristes. Ils sont très honnêtes, très polis. Ils regardent la beauté des bâtiments, on leur explique le sens des icônes. Mais après, ils rentrent chez eux avec un souvenir, mais pas avec la foi. Donc, il faut encore faire une marche en plus. Dans l'Église, il faut rencontrer le Christ. Il est présent par l'icône, entouré de tous ses saints. Mais bien sûr, cela ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le Christ, c'est un des grands maîtres spirituels de l'humanité, à côté des autres. Mais il est plus que cela. Donc il faut encore monter une marche. Et en Christ, il faut reconnaître Dieu. Il faut rencontrer le Seigneur Dieu en Christ, dans le sanctuaire de l'Église. Et à ce moment-là, on peut dire, ouf, j'en suis. J'ai rencontré le Seigneur, mon Créateur, invisible parce qu'il habite dans une lumière inaccessible. Mais celui qui a vraiment rencontré le Christ, avec le cœur ouvert, il peut dire, j'ai rencontré Dieu, car le Christ est le Fils de Dieu vivant. Alors c'est ça que nous devons apprendre en particulier à nos enfants, qui vivent dans une société difficile. Et surtout, quand ils ont un certain âge, vous le savez, entre 13 et 18 ans, c'est difficile. Aux parents, je voudrais dire, il faut toujours respecter la liberté de vos enfants. Parce que la liberté, c'est un don de Dieu. Et quand vous avez baptisé vos enfants, et vous avez éduqué vos enfants dans la foi, vous pouvez être sûr, le Seigneur s'occupe d'eux. Mais pas à ma façon. À sa façon. Selon sa volonté. Mais nous devons introduire nos enfants dans l'Église et après avoir confiance en Dieu. C'est lui qui va s'occuper d'eux, comme il s'occupe de nous tous. Et c'est pourquoi aussi, quand vous venez ici, et vous êtes tous et toujours le bienvenu, mes frères et sœurs orthodoxes, cherchez dans l'Église l'unique nécessaire, c'est le Christ vivant, le Christ ressuscité. La vérité à propos de Dieu et de nous-mêmes. Et ce n'est pas une question d'être un intellectuel, c'est une question de vivre cette unité par les saints mystères de l'Église, par les offices. C'est notre prière dernière, la vigile, les vêpres et la sainte liturgie. Recevrez souvent la sainte communion. Je vous félicite à la fin maintenant de mon discours pour quelque chose. Bien sûr, à l'occasion de cette fête splendide de Saint-Nicolas, mais pour le nombre des enfants. C'est magnifique, c'est merveilleux de voir tous ces enfants qui chantent à leur façon. Vous savez, c'est peut-être un peu difficile pour la chorale et pour nous, mais voilà, c'est le bruit sacré des enfants. Ils chantent à leur façon. Mais ils sont présents. Aussi, un grand merci pour tous ceux qui servent dans l'hôtel. Les hippodiacres, les acolytes, hier soir et aujourd'hui. Et j'espère de tout mon cœur que vous êtes chaque dimanche ici, mes amis, pour aider vos prêtres et donc tous ceux qui travaillent dans le sanctuaire. Merci aussi pour la chorale. Vous savez que vous avez un renommé. La chorale de Nice, c'est très bien, mais n'oublions jamais, si quelqu'un veut attendre un concert, il doit aller à l'opéra. S'il veut participer à la prière, alors qu'il soit le bienvenu dans l'Église. Ce que je veux dire, nous devons toujours, quand nous chantons, quand nous célébrons, même quand nous nettoyons l'Église, quand on s'occupe des cierges, il faut faire ça comme une prière. Parce qu'on est toujours dans l'Église en présence de Dieu. Je vous félicite pour tout cela. Je vous dis de tout mon cœur, au revoir. Je suis d'accord. C'est toujours une joie de venir ici et d'être avec vous tous. Mais n'oublions pas l'unique nécessaire. Notre propre sanctification. Je vous félicite.
Amen. Amen. Après de telles paroles, Monseigneur, résolument, je ne peux plus rien ajouter, rien dire. Et il y a des circonstances d'ailleurs où il est impossible de se renouveler. Alors simplement, un très grand merci de tout notre cœur d'avoir fait ce voyage, de nous avoir rendu visite. Un seul rappel, c'est que l'évêque est l'icône du Christ. Vous venez aujourd'hui de nous le confirmer et nous le rappeler par toute votre présence, par tout ce que vous avez dit, par toute la manière dont vous avez célébré. Encore merci.
On va maintenant chanter, je pense, Oraïa Lietta, en particulier de tout notre cœur pour Père Michel.
qui est devenu archiprêtre. Donc, nos félicitations encore, mon père. Et chaque distinction dans l'Église, c'est un appel pour encore mieux travailler pour le bien-être de l'Église. N'oubliez pas cela. Merci donc, et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et on va aussi, bien sûr, commémorer les fondateurs, les bienfaiteurs, les célébrants de cette Sainte Église qui sont maintenant, qui participent maintenant à la liturgie céleste auprès du Seigneur, autour de l'agneau de Dieu.